Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani. Studio Tamani. Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry,
Halo Demandé.
Chenne Berry, Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Lundi 10 octobre 2016, mesdames, messieurs, bienvenue au grand dialogue. Nous vous proposons de parler aujourd'hui de la mort d'un chef militaire du HCUA. Il s'agit de Cheikh Agaoussa, tué lors d'une explosion à Kidal samedi 8 octobre en fin d'après-midi. Qu'est-ce que cela implique pour la sécurité de la région de Kidal? Qui était Cheikh Agaoussa? Le processus de paix enclenché est-il en danger avec la mort de l'individu? Quelles sont les circonstances autour de sa mort? Voici quelques questions auxquelles vont tenter de répondre nos invités. Il s'agit de Cheikh Amadou Diouara, il est journaliste indépendant. Bonsoir Monsieur Diouara.
Bonsoir.
Mamadou Diouara, sociologue et analyste, il sera très bientôt avec nous dans ce studio. Baba Dakono, il est chercheur et analyste, il sera en haut téléphone depuis la région de Ségou. Et le professeur émérite André Bourgeot, directeur de recherche au CNRS de Paris. Je suis Ousmane Diadié Touré pour vous présenter cette émission. La mise en onde est assurée par Sedoumbo.
Le grand dialogue.
Bienvenue. Appelé aussi Abou Mohan, il serait né à Kidal vers 1965. Cheikh Agaoussa, dont la proximité avec le groupe djihadiste en Sardine de Yadagali a souvent été décriée par certains, est mort ce samedi 8 octobre. Il était le chef de la branche militaire du HCUA. Aucune revendication jusqu'ici. Aoussa serait mort suite à l'explosion de son véhicule à 200 mètres à peine du siège des Nations Unies de Kidal avec un de ses fils. C'est la première fois qu'un chef militaire est tué à proximité justement du camp de la MINUSMA. Cette première question de l'un de nos internautes, Cheikh Amadou Diouara, journaliste qui pose la question, il s'agit de Iba Sidibé qui a posé sa question sur Facebook. Qui était Cheikh Agaoussa?
Une bonne question vaut toujours mieux qu'une bonne réponse. Mais là-dessus, Cheikh Agaoussa, quand il mourait, il était le responsable militaire du HCIA. Mais je pense que, en tout cas, parmi les protagonistes, en fait, parmi ceux qui restent fréquentables jusque-là dans le cas de l'accord d'Alger, c'est l'homme le plus important militairement. Cheikh Agaoussa, comme Yad, comme El Hadj Gamou, comme Assalat, etc., les Najim et autres, sont partis au début des années 70 en Libye, ont intégré la Légion Verte. Il a participé à l'action libanaise en faveur de la Palestine. Il a combattu auprès de l'OLP contre les Israéliens. Ils sont revenus en Libye et après l'éclatement de la Légion Verte, il a été à Taïkaran avec tous ceci pour la rébellion des années 90. Et après les problèmes avec Bilal Saloum, après la mort de Bilal Saloum, en tout cas lui fait partie des quelques rares qui n'ont pas intégré l'armée malienne et qui sont restés dans la région de Kidal. Et en ayant même mis sur certains territoires, ce qui lui a permis de se constituer en seigneur de guerre et de pouvoir tenir un certain contrôle d'une certaine gente civilo-militaire qu'on peut appeler milice ou bande armée, en tout cas pendant tout ce temps, disons depuis les années 94, lui il a une bonne mainmise sur la zone et a eu à côtoyer.
Alors on voit déjà que Cheikh Agaoussa, selon vos dires, a quitté le nord du Mali, Kidal, relativement jeune, pour se verser justement dans l'armée d'abord libyenne. Alors est-ce que il était toujours considéré par les communautés comme un national, un local de la zone?
Oui, évidemment. D'abord, il faut savoir qu'il n'était pas n'importe qui parmi ces jeunes Touaregs qui sont retrouvés en Libye à la Légion Verte. Il a même été le premier responsable, le chef, le porte-parole et tout ça. C'est-à-dire même, il a été le chef de Yad, de Gamou, d'Assalat, de tout ceci à l'époque. Quand ils sont revenus, bon, il a perdu le leadership évidemment, qui était avec Yad. Ils se sont embrouillés un peu, mais je veux dire, quand il y a eu les accords et que les autres sont allés dans l'armée et autres, il était pratiquement le seul qui n'a pas intégré. Même Yad a intégré d'une manière ou d'une autre parce qu'il a occupé des postes, il a été ambassadeur, etc. Mais lui, il est resté dans la région de Kidal et il gardait vraiment main mise sur la zone. Alors, ce qui a fait que depuis la fin des années 90, le début des années 2000, quand d'abord avec le GSPC, avec le FIS, avec déjà les groupes djihadistes algériens, il avait des relations, il entretenait des relations. Et quand Al-Qaïda est venu pour la première fois s'installer depuis l'affaire El Para, il était en tout cas le premier interlocuteur de ces groupes dans la zone. Parce qu'il justement, était incontournable.
On va revenir vers vous pour parler justement de cette proximité avec certains groupes narco-djihadistes. En attendant, nous nous adressons. Baba Dakono, est-ce que vous êtes avec nous?
Oui, je suis là.
Alors, encore une question de Iba Sidibé, un de nos internautes. Quel est-elle le rôle exact de justement Cheikh Agaoussa au sein de la CMA?
Déjà, pour rappeler le rôle de Cheikh Agaoussa au sein de la CMA, il faut rappeler son rôle qu'il a joué quand il était dans la Légion verte de Kadhafi. C'est ce qui permet justement de parler de son influence aujourd'hui sur ce qu'on peut considérer comme l'aile dure en fait, du HCUA et de la CMA. Il était formateur. Donc la plupart aujourd'hui, et il est considéré comme un grand stratège par de nombreux combattants et de nombreuses communautés, qui fait qu'il est beaucoup écouté, en plus de l'influence qu'il a sur beaucoup aujourd'hui des combattants qui sont qualifiés par de nombreux observateurs comme des combattants aguerris au sein de la CMA. Mm-hmm. Donc ce rôle joué en tant que formateur lui permet et lui vaut le respect qui lui était dû pendant tout ce temps. Au-delà de ça aussi, Djouara a parlé tout à l'heure de son influence et du rôle qu'il peut jouer au sein de la communauté, mais ce rôle il a joué au-delà même de la communauté, parce que la plupart des libérations d'otages occidentaux qui se sont faites entre 2008 et 2011, il a joué un important rôle en termes de contacts, mais aussi en termes de connaissances et de réseaux, parce que l'une de ses forces également était un important réseau qu'il a au sein de ses communautés. Maintenant, il joue de cette influence au sein de la CMA et il est considéré également comme le trait d'union, parce que, comme vous le savez, de nombreux observateurs parlent d'union entre le HCUA et Ansardine.
On va revenir d'ailleurs, oui.
Ce qui joue ce rôle, le trait d'union entre, à raison de sa proximité avec Yadagali et les autres membres de la communauté IFOAS au sein de ce regroupement HCUA.
Merci Baba, on revient vers vous tout à l'heure pour d'autres questions. Professeur André Bourgeot, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Merci de vous joindre à nous depuis Paris. Il y a quand même quelques polémiques par rapport justement à Cheikh Agaoussa, quand on parle un peu de son rôle. Cheikh Agaoussa aurait été numéro 2 de Yadagali au sein de Ansardine. Alors moi, j'ai bien envie de vous poser cette question. Est-ce que c'était un combattant sécessionniste du HCUA ou plutôt un combattant djihadiste?
Bon, j'aurais tendance à dire que probablement il a servi de relais. C'était quand même le personnage numéro 2 d'Ansaradine qui était extrêmement proche de l'Iyad Agrali. Donc c'est pas du tout impossible qu'il ait servi de relais dans le sens où probablement l'Iyad Agrali l'a instrumentalisé à des fins qui étaient plus des fins de nature salafiste djihadiste qu'à des fins indépendantistes. Mais les deux, vous savez, ça peut se conjuguer. Ce que je voudrais rajouter, c'est un peu une question. Est-ce que la manière dont les deux intervenants précédents ont présenté l'itinéraire de Cheikh Agaoussa, est-ce que Cheikh Agaoussa ne fait pas partie de la même génération que Mohamed Agnajem, qui lui aussi est parti très tôt, je crois que c'était après la rébellion de 90, il est parti en Libye. Est-ce que ces gens-là ne participent pas de la même génération? J'aurais tendance à dire, est-ce qu'il n'y a pas eu une sorte de promotion entre Iyad Agrali, Ahmed Agbili, Mohamed Agnajem? Est-ce que tous ces gens-là, ce n'est pas la même génération qui a été formée dans la Légion islamique et après versée dans l'armée libyenne? Bon, par ailleurs, je crois qu'il faut insister sur le fait aussi qu'il était particulièrement irrédentiste et que c'était probablement le détenteur du pouvoir. La manière dont fonctionnent les rébellions, les ex-rébellions armées Touareg, c'est pas les secrétaires généraux qui sont détenteurs du pouvoir, ils font de l'affichage politique. Le véritable détenteur, c'est le militaire. Donc c'est quand même lui qui, de ce fait-là, a pu avoir une influence extrêmement importante sur le, pas simplement sur le HCIA, hein, probablement sur l'ensemble de la coordination des mouvements de la ZAWAD, et puis peut-être aussi, c'est difficile à vérifier, sur une partie de la population des Kidal. Maintenant, il y a une question que je me pose, c'est que on dit qu'il a sauté sur une mine. Alors, si effectivement il a sauté sur une mine à Kidal, il y a deux hypothèses. Ou bien la mine a été placée volontairement sous son véhicule.
Alors, professeur André Bourgeot, on va revenir justement sur les circonstances autour de sa mort. On a d'ailleurs prévu une capsule, un son du porte-parole du CUA qui a donné son avis sur la question. D'ici là, je reviens vers vous, Cheikh Amadou Diouara. Dites-moi, qu'est-ce que la mort de Cheikh Agaoussa implique justement en termes de sécurité, même dans la région de Kidal, puisqu'on parle aujourd'hui de Cheikh Agaoussa comme garant justement de ces commerçants de Gao qui ravitaillent Kidal. Cheikh Agaoussa serait celui qui entretenait un peu leur sécurité, donc entretient aussi cette liaison justement qui permet à Kidal de respirer un tout petit peu.
D'abord, vous savez, s'il faut parler de l'homme fort de Kidal, c'est Cheikh Agaoussa. Mais c'est aussi celui qui semble être l'homme de parole. Celui qui semble être l'homme de parole, parce que comme vous savez, Kidal est un Far West, un no man's land. Donc tout ce que vous devez faire à Kidal, vous passez par Cheikh Agaoussa. Si Cheikh Agaoussa vous donne une garantie, vous vous y installez. Même au-delà de l'informel, je parle des ONG, je parle de certains. Même par exemple, nous les journalistes, moi je me souviens souvent quand on a été pour certains reportages, il a fallu que lui l'appelle pour dire écoutez, laissez-les faire leur travail, etc. et autres à certains endroits. En tout cas, je veux dire, à chaque fois que c'est Cheikh Agaoussa qui garantit, c'est garanti. Et il semble être celui dont la parole a du sens, celui qui tient effectivement à ses engagements. Et pour ça, je pense qu'il joue évidemment ce rôle de garant pour un certain nombre de personnes, mais aussi pour pas mal d'actions et d'activités.
Et que diriez-vous, très rapidement, que diriez-vous justement de Cheikh Agaoussa qu'on a vu dans ces images-là, qui était impliqué en Sardine avec Yad Agali avant le processus de paix? Alors, est-ce que c'est passé à côté de toute la communauté internationale qu'il ait appartenu à ce mouvement narco-djihadiste en Sardine, à un moment donné?
Oui, en fait, je veux dire, effectivement, Cheikh Agaoussa, c'est quand même le seul de tous ces leaders qui a été vu, effectivement, publiquement, de façon, en tout cas, assez aisée dans cette fameuse vidéo qui est parue en février 2012. Mais après, c'est le même Cheikh Agaoussa qui a accueilli Serval à Kidal, qui a organisé au déploiement de l'opération Serval sur le reste de la région de Kidal, sur les Iforas, etc. et autres. Moi, j'y étais. Donc, d'ailleurs, quand les forces spéciales, la DGSE, quand ils sortaient de leur base pour aller n'importe où à Kidal, la première destination, c'était d'abord chez Cheikh Agaoussa. Tout ce qui se faisait, tout ce qui se préparait, passait par lui. Donc, en un mot, il était aussi... en tout cas, le garant aussi de Serval d'une manière ou d'une autre. Il était l'interface, etc. et tout ça. Donc, je veux dire, en 3 ou 4 jours, on est passé de Ansardine à Mia, établir une certaine fréquentabilité, et tout un blanchiment. Je veux dire, les mêmes gens qui étaient à Kidal, qui étaient Ansardine, qui étaient djihadistes et autres, qui une semaine étaient pourchassés à Kona, étaient à Kidal. On a juste changé les drapeaux pour mettre le Mia et autres. Et puis après, tout est bon. Donc, je vais dire, en tout cas, il a bénéficié de cette grâce, de ce blanchiment et de devenir automatiquement fréquentable en 72 heures. Et voilà comment les choses sont parties. Et d'ailleurs, devenu après le responsable du HCIA, parce qu'en réalité, les Al-Gabbas, etc. Tout ceci, je pense qu'ils sont politiquement responsables, les Bilal et autres. Mais en réalité, l'homme fort de la région de Kidal a été jusque-là Cheikh Agaoussa.
Merci Cheikh Amadou Diouara. On revient juste après une courte pause.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Merci de rester connecté avec nous. Vous suivez le grand dialogue du studio Tamani. Ce lundi 10 octobre, on parle de la mort du chef militaire du HCUA, Cheikh Ag Aoussa. Alors, Baba Dakono, vous nous entendez ?
Oui, oui, je vous entends.
Alors, dites-moi, comment est-ce que ce processus de paix aujourd'hui, comment est-ce que la mort de Cheikh Ag Aoussa, justement, pourrait influencer ce processus de paix enclenché dans la région, enfin, dans le pays ?
Bon, déjà, il faut rappeler la position de Cheikh Aoussa, qui a été toujours une position tranchée. Position tranchée dans la mesure, c'est vrai qu'il était dans le processus de paix, mais il n'a jamais caché l'idée de la création de ce Tazawad comme entité indépendante, sinon à minimum entité fédérée dans un État fédéral. Ça c'est une position connue, c'est une position qu'il a défendue et il est resté sur cette ligne depuis les années 90. Donc, en plus de ça, on ne va pas revenir sur le fait que c'était une personnalité très importante et très influente dans cette région. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que c'est le jeu de pouvoir et le jeu d'intérêt qui marche dans cette localité. Autrement, qui détient, qui peut faire converger ses intérêts ou par qui passe ses intérêts ou par qui passe l'expression du pouvoir, notamment local, dans cette localité, c'est ce qui détermine le jeu et c'est ce qui détermine le rôle ou l'importance d'une personnalité dans cette région. Et ce qui est sûr, c'est vrai qu'il va y avoir quelques temps de doute, quelques temps de clash, quelques temps d'accrochage, mais il n'est pas exclu que ce rôle joué par Cheikh Aoussa aujourd'hui soit récupéré par un autre. Ce que je veux dire, c'est que dans cette région, il y aura toujours une figure emblématique, il y aura toujours une personnalité de la trempe de Cheikh Aoussa qui va jouer le rôle qu'il était en train de jouer jusque-là.
Merci Baba, on revient vers vous tout à l'heure pour d'autres questions. Professeur André Bourgeot, c'est quand même une perte énorme pour le HCUA et la CMA. Alors, quelle pourrait éventuellement être l'influence justement de cette perte pour le processus de paix en cours ?
Auparavant, je voudrais revenir sur l'autorité qu'avait Cheikh Ag Aoussa. C'est quand même quelqu'un qui n'a pas varié dans sa ligne politique depuis le début. Il n'a pas intégré effectivement l'armée malienne, il est resté sur des positions qui ont fait en sorte que probablement on ne l'a pas perçu comme quelqu'un qui était opportuniste. Je crois que ce n'est pas négligeable à le souligner. Maintenant, les conséquences de cet accident, puisqu'il semblerait que ce soit un accident, elles peuvent être multiples, parce que on peut imaginer, mais bon, c'est encore une fois des hypothèses, c'est que est-ce que ça va ne pas générer des cycles de vengeance à partir du moment où on saura qui ou quels sont les groupes qui sont auteurs
Justement, à qui pourrait bénéficier la mort de Cheikh Ag Aoussa aujourd'hui dans la région ? Alors, qui pourrait derrière cet acte odieux si toutefois il y a une personne derrière ?
La réponse ne peut être ambivalente, hein, parce que quel que soit l'auteur de cet acte-là, ça peut générer deux positions complètement contradictoires. C'est-à-dire que quelqu'un qui a autant d'autorité, donc affaiblit le mouvement, la tendance la plus irrédentiste au sein de la CMA, mais en même temps, ça peut générer un cycle de vengeance. Et ce cycle de vengeance peut parfaitement se perpétrer par les groupes armés narco-djihadistes, salafistes djihadistes, qui ont encore capacité à intervenir sur l'ensemble du territoire malien. Ça, en tout cas, c'est une hypothèse qui n'est pas écartée, compte tenu du fait qu'il était quand même très proche dans le Saladine. C'était le numéro 2. Mais il n'y a pas que lui qui vient dans le Saladine. Il y a aussi le secrétaire général du Haut Conseil de l'Unité de la Zawad, M. El-Khabas Aguinkallah, qui lui-même était très très proche du Iyad et qui a créé le mouvement islamique de la Zawad pour se redonner une sorte de vertu. Donc, c'est pas du tout impossible, même moi, j'ai pas suffisamment de renseignements pour étayer ce que je veux dire. C'est pas non plus impossible qu'au sein du HCUA, il y ait un nombre non négligeable de salafistes, de djihadistes proches de l'IAD. Ce qui voudrait dire que il y a la capacité à instrumentaliser le Haut Conseil pour l'unité de la Jawad sur ses propres finalités, c'est-à-dire qu'il aurait plusieurs cordes à son arc. Il a déjà la corde de Koufa dans la région de Mali, dans le Mali central. Il peut intervenir aux frontières comme il l'a fait en Côte d'Ivoire, etc. C'est-à-dire, ça peut aussi déboucher sur ce genre de choses. Mon inquiétude irait plutôt dans ce sens-là, parce que compte tenu de l'autorité et de l'envergure qu'il représentait, c'est pas possible que ça génère un cycle de vengeance animé et gercé par les groupes salafistes djihadistes.
Alors, je rappelle que cet attentat à la vie de Cheikh Aga Oussane n'a été revendiqué pour le moment par aucun groupe. Cheikh Amadou Diouara, vous êtes journaliste indépendant. Dites-moi, est-ce que aujourd'hui on peut parler d'une quelconque responsabilité ou des Nations Unies ou d'un des groupes plateformes ou CMA? À qui pourrait éventuellement profiter la mort de Cheikh Aga Oussane?
Inévitablement, on va parler de responsabilité. Inévitablement, on va se poser des questions, parce que quand même, il sortait d'une réunion dans la base commune MINUSMA Barkhane, hein, et deuxièmement, en tout cas, d'après les constats sur place de son camp et des autres, ça semble être plus un engin explosif à bord qu'un engin qui l'aurait piétiné. Alors, à qui profite la mort de Cheikh Aga Oussane? Je pense qu'il faut dire aussi très clairement les choses à plusieurs. Je pense que d'abord à la France, à Barkhane, aux forces spéciales françaises, la DGSE, etc.
Mais qui est Cheikh Aga Oussane, qui fut, vous l'avez dit tout à l'heure, le garant justement, la personne qui aurait accueilli les Français à Kidal.
Évidemment, mais n'oubliez pas que c'est un jeu de renégat. C'est un jeu d'échecs. À tout moment, l'ami peut devenir l'ennemi, l'ennemi peut devenir l'ami. Cheikh Aga Oussane, il était le numéro 2 de Ansar Dine, qui venait d'attaquer il y a une semaine Konan, qui se retrouve une semaine après à accueillir Barkhane, Sarval et à baliser le terrain pour eux. Alors, qui sait, les compromis, ça reste dans les secrets du diable. Alors, qui sait si les compromis sont les mêmes, si du potentiel partenaire, il devient le potentiel élément gênant et à abattre. Et les services secrets, vous le savez, ils font pas de cadeaux. Celui qui est à abattre, il est à abattre, c'est tout. Donc, quitte à trouver l'astuce, quitte à trouver le meilleur moyen de le faire. Et d'ailleurs, souvent, il n'y a même pas de meilleur moyen. L'essentiel est de l'éliminer. Sinon, si jamais il a été éliminé par un engin placé pendant que son véhicule était dans le camp, on voit que ça, cette hypothèse, elle est très facilement solvable, elle s'affiche très facilement.
Alors pour le moment, on va parler uniquement d'hypothèses autour de la mort de Cheikh Aga Oussane. On va d'ailleurs écouter l'intervention de Almou Ag Mohamed, qui est le porte-parole du HCUIA autour de la mort de Cheikh Aga Oussane.
Cet assassinat lâche de notre chef d'état-major militaire, pour nous, c'est un assassinat ciblé qui a été fomenté, organisé à l'intérieur camp de la MINUSMA à Kidal. Nous soupçonnons que l'engin explosif qui a causé la mort de Cheikh Aga Oussane a été collé à son véhicule pendant qu'il était en réunion avec les autres membres de la CIMA, les forces Barkhane et la MINUSMA, à l'intérieur du camp de la MINUSMA. Pour l'instant, on ne va pas s'aventurer à prédire ce qui va venir nous réserve. Ce qui est sûr, c'est un acte très grave. Nous avons déjà interpellé la MINUSMA pour qu'elle mette toute la lumière sur cet acte odieux, pour qu'on puisse retrouver les auteurs de cet assassinat, qu'ils soient arrêtés et punis conformément aux lois à la matière.
Voilà, Baba Dakono, vous êtes analyste chercheur, vous intervenez depuis Ségou. Dites-moi, est-ce que la mort de Cheikh Aga Oussane est une bonne ou une mauvaise chose pour le processus de paix, selon vous?
Bon, ça dépend de quel côté du processus de paix on se trouve. Je crois qu'aujourd'hui, tous les acteurs s'accordent sur le fait que la paix aujourd'hui, telle qu'on le voit, n'arrange pas tous les acteurs. Cette situation arrange davantage certains acteurs qu'une situation plus stable ou une situation de paix à minima. Maintenant, pour revenir un peu sur les circonstances, sur l'hypothèse, il y a quand même des éléments factuels qu'il faut rappeler, notamment le fait qu'il y avait quand même plusieurs responsables de coups d'armée à cette rencontre, qui sont presque partis ensemble, lui en dernière position, et le fait que même s'il est indéniable qu'il y avait des dispositifs d'engins explosifs tout autour du camp, comme l'a signalé certains acteurs de l'aménagement, c'est quand même quelqu'un qui a une bonne connaissance de la zone. Et pour revenir à la question d'intérêt, d'enjeu et probablement à qui profite cet assassinat aujourd'hui, c'est qu'il faut rappeler les enjeux aujourd'hui dans la région de Kidal. Les enjeux, c'est la prise de position de certains groupes armés, notamment la plateforme et principalement le Gatia dans la région de Kidal. C'est principalement aussi les luttes de pouvoir modernes qui profilent à l'horizon, notamment par la mise en place d'autorités intérimaires ou les élections locales qui profilent à l'horizon. Et c'est également le contrôle de toutes ces trajectoires où passe, vous l'avez rappelé, la drogue, toutes ces marchandises prohibées et tous ces réseaux de trafic également. Donc aujourd'hui, il est difficile de croire, quelles que soient les circonstances ou quelle que soit l'hypothèse qu'on va préférer par rapport à cet assassinat, il est difficile de croire que cet assassinat a été perpétré sans l'autorisation de certains acteurs clés de cette région.
Certains acteurs clés de cette région, notamment, vous parlez de qui a priori?
Les responsables, les chefs communautaires, des responsables des groupes armés, des acteurs internationaux et tous ceux qui sont impliqués et qui ont un mot à dire dans cette région et dans le processus.
Alors, donc vous excluez le fait que ça pourrait éventuellement être un accident?
Je dis dans le cadre de l'hypothèse quand même, quel que soit, que ce soit, si on décide de préférer l'hypothèse d'un assassinat par rapport à un accident, c'est que dans ce cas, quelque part, cet état ne peut se produire sans une autorisation quelque part.
Merci. Cheikh Amadou Diouara, vous avez entendu les déclarations de Almou Ag Mohamed qui exhorte l'AMINUSMA. L'AMINUSMA qui d'ailleurs dans un tweet déplore la mort de Cheikh Agaoussa. Alors, qu'en dites-vous?
Bon, l'AMINUSMA qui a quand même fait un communiqué plus de 24 heures après. Pendant qu'il était en réunion chez eux, il est sorti à peine l'accident est intervenu. Après tout le monde, tous ceux qui ont fait des communiqués, le communiqué de l'aménagement est venu après tout. Après que le porte-parole de la CEMA ait fait une déclaration pour dire que 24 heures après que le monsieur en sortant de chez l'aménagement est mort, il n'y a pas eu de réaction, il n'y a pas eu de communiqué. C'est là que l'aménagement a fait un communiqué. Je veux dire, cela ne voudrait en rien dire qu'ils sont impliqués d'une manière ou d'une autre, mais je pense aussi que ça a quand même mis du temps à arriver. Mais en tout cas, à qui profite la mort de Cheikh Agaoussa, je pense qu'il faut aussi le dire, à l'État malien, à l'armée malienne. Il faut qu'on se dise la vérité.
Est-ce que le
sérieux problème du retour de l'armée malienne à Kidal a toujours été Cheikh Agaoussa. Le problème a toujours été Cheikh Agaoussa. Et deuxièmement, Cheikh Agaoussa, il ne faut pas oublier aussi, malgré ce qu'il est dans le HCA, en Sardine, ses connexions avec les djihadistes, Cheikh Agaoussa, c'est le parrain du MNLA. À chaque fois que le MNLA a été dans les emprises de l'armée, du Gatia, etc., c'est toujours Cheikh Agaoussa qui est arrivé à la rescousse. Que ce soit en mai 2014, après la visite du Premier ministre Mara, c'est qui s'en est suivi. C'était Cheikh Agaoussa qui arrivait à la rescousse. Avec le Gatia, les deux dernières fois, c'était la même chose. C'était toujours Cheikh Agaoussa qui revient à la rescousse, qui est non seulement le pont entre le HCIA et les autres réseaux djihadistes, mais qui est aussi le pont entre le HCIA et le MNLA. Parce que Cheikh Agaoussa, en plus d'avoir des profils djihadistes, extrémistes ou quand même des rapports avec eux, il est aussi indépendantiste. Et c'est ce qui a toujours été la différence entre lui et les Yad, entre lui et le colonel Antalla et autres du HCIA. Parce que les Yad, quand bien même qu'ils combattent l'État malien et autres, en tout cas leur leitmotiv n'a jamais été voilà ces arguments sécessionnistes. Mais Cheikh Agaoussa, il a toujours été dans cette logique. Et dans les années 90, quand tout le monde intégrait, il avait clairement spécifié qu'il n'intègre pas et que, voilà, lui, il ne s'est jamais reconnu sous le drapeau malien. Voilà.
Merci. Professeur André Bourgeot, nous allons vous donner la parole juste après quelques secondes de pause.
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio
Tamani. Merci de rester connecté avec nous. Vous suivez le grand dialogue du studio Tamani autour de la mort de Cheikh Aga Oussa, ce responsable militaire du HCUA intervenu à Kidal le samedi 8 octobre, en fin de journée, en fin d'après-midi, pardon. Professeur André Bourgeot, est-ce que vous nous entendez?
Oui, je vous entends bien, oui.
Excellent.
Oui.
Dites-moi, professeur, quelle devrait être aujourd'hui, justement, la grande priorité dans la mise en œuvre de l'accord après la mort de Cheikh Aga Oussa? Qu'est-ce qu'on devrait faire aujourd'hui?
Bon, auparavant, je voudrais quand même présenter la chose suivante, c'est que dans le cas, si on prend en considération les rapports de force militaires entre la FEMA et puis la plateforme, les rapports de force militaire vont dans le sens de l'affaiblissement de la FEMA. C'est la FEMA qui est confrontée à de grandes difficultés. Donc la mort de Cheikh Aga Oussa contribue d'une manière assez importante à renforcer cet affaiblissement de la FEMA. Et ça peut-être générer aussi des cycles de vengeance. C'est quelque chose qui n'est pas à écarter. Maintenant, que faire face à cette situation? Je n'aurai pas grand-chose à dire, si ce n'est que si effectivement ça crée les conditions d'une ouverture et d'une arrivée de l'administration malienne, y compris par certains éléments des FAMA, ça peut aller dans ce sens, mais je n'ai pas suffisamment d'éléments concrets pour pouvoir dire que ça peut aller dans ce sens. Mais je reprendrai l'argument qui a été annoncé tout à l'heure par le précédent intervenant, que dans l'immédiat, effectivement, si on prend en compte les rapports de force militaire, ça va dans le sens, le principal bénéficiaire sur le plan militaire, je veux dire sur le plan militaire, ça peut être effectivement les FAMA. D'où le fait que, à terme, dans 15 jours, un mois, deux mois, j'en sais rien, ça peut créer les conditions de la mise en place d'un processus qui irait dans le sens d'un retour de l'administration malienne, y compris dans ses aspects militaires.
Alors, cette question qui me brûle un peu les lèvres, est-ce que vous pensez que aujourd'hui, il y a un cycle de nettoyage de justement des chefs de guerre ou des gens de part et d'autre, hein, plateforme CMA pourrait justement être enclenchée avec le décès de Cheikh Aga Oussa? L'assassinat de Cheikh Aga Oussa.
Nettoyage est peut-être un terme un peu fort, mais ça va quand même dans le sens aussi d'une clarification, et cette clarification, elle passe aussi par l'instauration de nouveaux rapports de force militaire. C'est quand même à l'issue des affrontements qu'il y a eu entre le GATIA et puis la FEMA. Donc voilà.
Cheikh Amadou Diouara,
vous êtes... J'ai pas bien entendu votre question.
Alors, la question, c'est est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, certains veulent se débarrasser de certains leaders qui, pour eux, seraient un peu gênants?
En tout cas, c'est une hypothèse qui n'est pas du tout à écarter. Hein. Ça approfondirait. Il ne faut pas minimiser, même si les accusations formulées par les États-Unis d'Amérique sur les lenteurs et puis l'immobilisme des autorités maliennes dans les conditions de l'accord de paix, ça a eu probablement quelque part des incidences. Et une de ces incidences-là pourrait aller effectivement dans le sens que le moment serait venu sur le plan politique et militaire de passer à une certaines clarifications, et que cette clarification elle passe aussi par la disparition de certains leaders qui sont particulièrement influents.
On voit surtout ces dernières semaines, professeur Bourgeot, qui a eu ces derniers mois, je vais même dire, qui a eu quand même ce conflit très tendu entre le GATIA et le HCUA. Est-ce que aujourd'hui, on peut dire que le rapport de force sur le terrain va changer ou va aller du côté du GATIA pour la grande tristesse des populations qui subissent depuis tant de mois?
La FEMA, incontestablement, est déjà sensiblement affaiblie sur le plan militaire. Donc la disparition de Cheikh Aga Oussa ne peut que renforcer cet affaiblissement au profit du GATIA et au profit de l'armée malienne. Mais je voudrais aussi rappeler qu'il y a déjà eu un accident cette fois-ci, parce que, bon, je vais utiliser le terme accident, Ibrahim Baïd Bahanga, qui était un irrédentiste, C'était la même position aussi que celle de Cheikh, qui a été victime d'un accident de voiture dans le Sahara. Donc, vous voyez, on peut aussi, à partir de là, dresser des hypothèses et puis penser qu'il y a un moment donné où les irrédentistes font des obstacles tels qu'on passe par des pratiques connues.
Alors, Cheikh Amadou Diouara, vous voulez réagir?
Oui, là-dessus, d'abord, je pense qu'il faut qu'on on rappelle quand même que le même jour où Cheikh Agaoussa est mort d'une mine, le même jour, il y a eu une opération des forces spéciales françaises à Kidal où trois éléments militaires de la CEMA ont été liquidés par les forces spéciales françaises. Je pense qu'il est peut-être possible d'établir un lien entre ces deux événements. Tout de suite, il a parlé du même scénario qui est arrivé avec Ibrahim Agbahanga, mais je pense que par rapport à Ibrahim Agbahanga, il y a eu quand même certaines hypothèses de plus en plus solvables et même palpables, je dirais, qui établissent la théorie du complot, qui établissent une élimination planifiée depuis le Niger qui a mis fin au jour d'Ibrahim Agbahanga. Mais je pense qu'il faut quand même que nous essayons de lire un peu entre les lignes par rapport à ce qui se passe. Je voudrais aussi apporter une petite précision. Mm-hmm. En tout cas, dans la presse malienne et un peu partout sur les réseaux sociaux, il a été dit que Cheikh Agaoussa était avec son fils quand il y a eu l'accident.
Je l'ai moi-même
il était
annoncé
tout
au
seul.
Mission, oui.
Il était tout seul dans son véhicule et il est mort. Et il est la seule victime et il était le seul à bord.
Alors, rectificatif donc à mon niveau, Cheikh Agaoussa serait mort tout seul dans son véhicule. Ceci étant dit, Baba Dakono, est-ce que vous êtes avec nous? Allô, Baba Dakono, est-ce que vous nous recevez?
Allô, oui, je suis là, oui.
Excellent. Alors, dites-moi, aujourd'hui, comment faire en sorte justement que ces populations de Kidal, de Gao, de Tombouctou, d'une grande partie du Nord Mali, qui souffrent aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire en sorte que les acteurs qui restent sur le terrain s'entendent pour le bien de ces populations, afin que ces populations vivent mieux? Et déjà...
Bon, c'est ce qui est mis en avant par tous les acteurs armés aujourd'hui, même si on sait que cette situation n'arrange pas du tout les communautés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on peut tenter de croire tout de suite que cette situation tend à peut-être décanter la situation, favoriser le retour de l'armée, mais c'est quand même occulter la complexité aujourd'hui du problème et la duplicité des acteurs de l'analyse à ce que c'est. Parce que, comme Diouara a rappelé tout de suite une précision factuelle, il faut également préciser que on a un nouveau groupe qui a émergé, pratiquement un groupe qui s'est dit politico-militaire, qui représente la communauté Kelansar. Donc, de plus en plus, cette situation... Au lieu de
alors, vous parlez de quel groupe?
Il y a un groupe, le nom Michel, mais ça a été créé entre hier et aujourd'hui, qui représente la communauté Kelansar et qui s'est dit être ignoré dans le processus. Donc, c'est un groupe, dans le communiqué du groupe, il est précisé un groupe politico-militaire, justement. Je crois que dans les prochains jours, il y aura plus d'informations sur la création de ce groupe. Donc, ce que je disais, c'est que le problème est d'autant plus complexe quand on fait le lien avec les attentes des communautés et justement toute cette situation qui ne favorise pas le retour à une vie saine pour ces populations et qui continue à exacerber le sentiment qu'ils sont ignorés par l'État malien, donc qui éloigne toute perspective de paix et toute perspective de construction d'unité nationale et de construction d'édification de l'État-nation tel qu'espéré depuis les années 60. Donc au lieu de décanter la situation, rend davantage le problème plus complexe et éloigne davantage la paix espérée.
Merci. Alors, dites-moi, professeur André Bourgeot, directeur de recherche du CNRS qui intervient depuis Paris, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que le processus de paix en cours ne s'enlise pas?
Bon, il faut attendre que la situation nouvelle qui vient d'être créée se décante un petit peu. Hein. C'est difficile de répondre à chaud. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je crois me souvenir d'avoir lu, sous réserve de vérification, que les autorités militaires de Barkhane avaient tenu des propos critiques à l'égard du HCUA, accusant certains éléments du HCUA d'avoir en définitive, c'est mon expression, c'est pas leur expression, une sorte de double langage et de ne pas aller dans le sens de l'application du contenu des accords de paix.
En effet, on l'a vu il y a quelques semaines, effectivement.
On a vu dans quelques semaines. Donc, je ne veux pas faire de relation de cause à effet, mais ça veut dire quand même que la politique française, et plus particulièrement celle de Barkhane, prenait ses distances vis-à-vis du HCUA. Je crois même qu'ils sont allés jusqu'à dire d'une manière un petit peu implicite de dénoncer les relations quasiment organiques qu'il pouvait y avoir entre certains éléments du HCUA et en ça avec Guim. Donc, vous voyez, tout ça, c'est quand même une très, très grande complexité. Ça voudrait dire qu'en définitive, je reprends ce qu'a dit un intervenant précédent, c'est qu'en définitive, la mort de Cheikh Aoussa peut-être arrange tout le monde. Alors, il y a une autre hypothèse dans la continuité de celle que j'ai avancée sur les rapports de force militaire. Si effectivement le rapport de force militaire s'accentue au détriment de la CEMA, ça voudrait dire que la carte politique qui est jouée, c'est une carte militaire qui ferait en sorte que la CEMA soit défaite véritablement défaite militairement, ce qui permettrait le retour de l'administration, des FAMA, etc., à Kidal. En tout cas, c'est une hypothèse que l'on peut...
Justement, aujourd'hui, on a un accord de paix signé, un accord qui reconnaît l'intégrité territoriale du Mali, un accord qui reconnaît le caractère laïque de la République, et il y a le drapeau malien ne flotte toujours pas à Kidal, l'administration n'est toujours pas à Kidal, les officiels maliens ne peuvent toujours pas aller à Kidal. Alors, est-ce que vous pensez que la politique française aujourd'hui pourrait éventuellement basculer du côté de l'État pour permettre le retour de l'administration?
En tout cas, c'est une hypothèse à ne pas écarter. Hein. J'observe aussi que les lobbies Touareg, assez influents, on peut même dire très influents en Europe et plus particulièrement en France, actuellement, ils sont particulièrement muets. On ne les entend plus. Ensuite, toujours dans le cadre de ces rapports de force militaire, on a vu que certains éléments du MNLA ont quitté le MNLA pour rallier la plateforme. On a vu la création aussi du MSA qui est dirigé par Moussa Acharatouman. Tout ça montre bien qu'il y a une sorte de processus de déliquescence.
Le MSA qui verse un peu plus du côté de la plateforme aujourd'hui d'ailleurs.
Oui, je crois qu'il n'y a pas de relation véritablement organique d'alliance, mais il basculerait du côté de la plateforme. Donc ça veut dire que la CEMA est militairement extrêmement affaibli et que ça peut aller dans le sens d'un rapport de force militaire qui ferait en sorte que ça résoudrait cette anomalie incroyable, je dis bien incroyable parce qu'il y a quand même eu le soutien implicite, une certaine complicité de la communauté internationale, de la médiation et puis de Barkhane sur la situation à Kidal. Parce que la situation à Kidal bafoue le contenu des accords de paix. Or, la CEMA était signataire de ces accords de paix. Donc c'est pas du tout impossible que face à une impossibilité de trouver une solution politique, que en définitive c'est la solution militaire qui serait trouvée.
Merci. Professeur, alors Cheikh Diouara, pour le dernier mot très rapidement, dites-moi, quand est-ce que ces populations de Kidal ou du Nord Mali en général pourront enfin respirer le parfum de la paix et de la quiétude?
C'est une question très délicate à laquelle je n'ai pas une réponse vraiment prompte, je ne sais pas.
Est-ce qu'il y a espoir justement que la paix revienne totalement dans cette partie ou dans le pays, dans le Mali, assez rapidement?
Je pense que les choses ont pris une autre tournure. Il y a certains indicateurs qui voudraient dire que la France et la communauté internationale ont décidé finalement de jouer plus clairement. Ils ont pris certaines décisions. Ils sont en train de les mettre en œuvre. Il y a certains indicateurs. Et je pense que peut-être que si ça avance dans ce sens, on va un jour aboutir à une situation plus souhaitable. Mais en tout cas, je ne le vois pas dans le court ou le moyen terme. Je ne suis pas pessimiste, mais très sincèrement, je ne le sens pas de façon aussi spontanée de façon aussi prompte.
Merci. Espérons que la paix revienne très rapidement et que le pessimisme de chèque, l'optimisme plutôt, prenne le dessus. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission avec nous. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur www.studiotamani.org, rubrique Grand Dialogue. Cette émission a été réalisée par Samba Doumbia. À la mise en onde, il y avait Sedumbo. Peting Diarra a assuré la régie vidéo. Merci, à demain pour une autre émission.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Dumondi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.